dans quelques instants. Ce sont les informels sur Radio Pleine Lune. À tout de suite.
Falling in love with love is falling for make-believe. Falling in love with love is playing the fool. Caring too much is such a juvenile fancy. Learning to trust is just for children in school. I fell in love with love one night when the moon was high. I was unwise with eyes unable to see. I fell in love with love, with love everlasting. Then love fell out with me. Falling in love with love is falling for make-believe. Falling in love with love is playing the fool. Caring too much is such a juvenile fancy. Learning to trust is just for children in school. I fell in love with love one night when the moon was high. I was unwise with eyes unable to see. I fell in love with love, with love everlasting. Then love fell out with me. Falling in love with love is falling for make-believe. Falling in love with love is playing the fool. Caring too much is such a juvenile fancy. Learning to trust is just for children in school. I fell in love with love one night when the moon was high. I wasn't wise with eyes unable to see. I fell in love with love, with love everlasting.
Is all you need to know the mood I'm in. Perhaps then you'd realize I'm still in love.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien. Rien que de la musique, ce ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone. Elle ne m'entend pas. Est-ce qu'elle m'entend? Oui, elle m'entend. Non, 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 ça y est. Ça sature.
Je parle plus doucement.
Ce ne sera rien. Juste pour faire du bruit. Le silence.
Alors, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, je vous donne notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023, depuis Genève. Dans quelques instants, les informels, c'est les nouvelles.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça sature.
Radio Radio Pleine Lune 93.8 MHz, son de femme Radio Zone, nos nouvelles. En Algérie, la terreur continue, frappant hommes et femmes, mais beaucoup de femmes sont elles aussi menacées, frappées. Ainsi, il y a une quinzaine de jours, le jeudi 16 février, la présidente d'une association féministe, Nabila Dianine, une architecte de 35 ans, a été abattue à Tizi Ouzou en Kabylie. C'est la première responsable d'une association de femmes tuée en Kabylie. Les meurtres se sont multipliés depuis le début du Ramadan, le 1er février. Ainsi, le directeur du Théâtre national algérien a été assassiné. Un autre responsable étudiant, un directeur d'école, un militant politique, un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères ont également été tués. De même, des adolescents ont été tués, 3 enfants ont été blessés par l'explosion d'une voiture piégée près d'Alger. Meurtre, attentat à la voiture piégée, sabotage, les groupes islamistes ont multiplié les violences depuis ce bain de sang que fut la mutinerie à la prison Sarkadji à Alger. Selon le quotidien Le Matin, 59 enfants ont été assassinés en 1994 par des groupes armés. Liberté estimait, lui, à 140 000 le nombre des orphelins dont les parents ont été tués en 3 ans. Et puis, il y a 2 jours, la radio algérienne a annoncé que les familles de 90, la liste des morts s'est encore allongée, puisque, et cette fois-ci, la télévision algérienne a diffusé dans son journal et pour la seconde fois les images de corps nus et criblés de balles d'un policier et de sa fille, âgée de 3 ans, assassinée la veille. Une femme professeure à l'Institut national d'agronomie d'El Arach, Khadija Aïssa, a été assassinée. Il s'agit de la 3e enseignante tuée depuis le début du Ramadan, le 1er février. La veille, une personne avait été tuée et 8 blessés dans le village de Sidi Abdallah, à 20 km d'Alger, quand 2 hommes au bord d'une voiture roulant à vive allure en sont descendus et ont tiré devant les villageois qui étaient au bistrot. Un dissident chinois dénonce le trafic d'organes humains. Le dissident chinois Harry Wu, qui fut interné pendant 19 ans dans un camp de rééducation par le travail, a saisi la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui siège actuellement à Genève, du scandale des prélèvements d'organes humains tels qu'ils sont faits en Chine. Se référant à des textes officiels et à des témoignages, il a affirmé, je cite, qu'un grand nombre d'organes prélevés sur le corps des condamnés à mort sont greffés sur des responsables de haut rang du Parti communiste qui se font opérer. De tels organes feraient aussi l'objet d'un trafic à destination de malades fortunés de Hong Kong, de Taïwan ou d'Amérique du Nord. Un représentant d'Anti-Slavery International a pour sa part jugé spécialement alarmant que, d'après les témoignages d'un chirurgien chinois et d'un ex-prisonnier britannique, des prélèvements d'organes aient eu lieu la veille d'exécution de condamnés, de sorte que celle-ci serait programmée en fonction des besoins médicaux. Harry Wu estime que Pékin ne rendra jamais public le nombre des détenus exécutés. Il y aurait eu, l'année dernière, environ 1419 exécutions, chiffre vraisemblablement très en dessous de la réalité. Dans le même genre de nouvelles horribles, une organisation américaine propose une prime aux meurtriers. Cette organisation, qui s'appelle Dead Serious, sérieux à mort, propose une prime de 5 000 $ à toute personne perpétrant un meurtre en état de légitime défense pour protéger sa maison, sa famille ou ses biens. Sa voiture, par exemple. Ou son chapeau, qui sait. Les membres de l'association doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle de 10 $, ne peuvent toucher la prime que si la justice reconnaît le bien fondé de la légitime défense, dont la jurisprudence est d'ailleurs très large aux États-Unis. L'existence de cette organisation paraît légale, mais les autorités ont averti ses membres, estimés à 800, d'être vigilants. Je cite, « Ce serait difficile de convaincre un jury que vous avez tué en état de légitime défense si vous réclamez une prime pour le meurtre », a remarqué un procureur. Le fondateur de Dead Serious est un ancien repris de justice condamné pour vol et agression qui considère son organisation comme un élément de dissuasion contre le crime résultant de la faillite du système judiciaire. En Russie, des maires s'organisent pour protester contre la guerre en Tchétchénie. Vu les informations mensongères des autorités militaires, les maires russes ont créé leur propre réseau d'information et de soutien aux soldats envoyés en Tchétchénie. Elles inspectent systématiquement les hôpitaux proches de la frontière tchétchène, enregistrent les noms des blessés, les interrogent, dressent des listes de prisonniers et surtout accueillent dans des comités locaux les nombreux soldats en fuite. Ainsi, à Moscou, en une journée, elles ont accueilli plus de 750 déserteurs. En France, à Orléans, une Zaïroise menacée d'expulsion reçoit un titre de séjour d'un an. Le préfet du Loiret a accordé un titre de séjour provisoire d'un an à une Zaïroise menacée d'expulsion. Installée depuis 13 ans en France, divorcée, Brigitte Lucouza, mère de 4 enfants, scolarisée à Orléans, était en situation irrégulière sur le territoire. Très vite, un comité de soutien regroupant des habitants de son quartier, des parents d'élèves et même des élus municipaux s'était constitué pour demander à l'administration de réviser sa position. Je cite, de la situation familiale de l'intéressé. Apparemment sensible à ses arguments, le préfet lui a accordé un titre de séjour provisoire. En France, l'allocation parentale d'éducation a peu entamé la population active. Instaurée en 1985 et plusieurs fois réformée, l'allocation parentale d'éducation destinée aux mères et aux pères de familles qui ne travaillent pas avait pour but, plus ou moins déclaré, de renvoyer des milliers de femmes vers leur foyer et ainsi de libérer des postes. Une étude réalisée par l'INSEE apporte un constat mitigé sur la réussite de la formule. Longtemps ouverte aux seuls parents de plus de 3 enfants, cette allocation a séduit environ 155 000 personnes, dont 95% de femmes, en 1994. Seulement, elle n'aurait contribué à diminuer que d'environ 50 000 personnes la population active. Explication, les femmes qui la réclament en fait ne travaillaient déjà plus. Cela n'empêche pas le Premier ministre d'en pincer pour cette allocation. En juillet dernier, il a ouvert les bénéfices de l'allocation aux pères et aux mères de 2 enfants de moins de 6 ans contre 3 auparavant et à un taux réduit à celles et ceux d'entre eux qui passeront à temps partiel. Emporté par son élan, le candidat Balladur propose d'aller plus loin encore. S'il est élu, l'allocation, promet-il, pourra être versée aux pères et mères d'un seul enfant. Une mesure qui devrait coûter 3 milliards, mais qui, comparée aux propositions familiales de Jacques Chirac, s'apparente à une petite réformette. En effet, le candidat Jacques Chirac propose une politique familiale pas très sociale. Il propose, à première vue, ça a l'air génial, il propose une allocation parentale de 3000 francs par mois qui serait à terme versée à toutes les familles ayant au moins un enfant, sans plafond de ressources. Mais pour financer un tel cadeau, les autres prestations familiales seraient, elles, supprimées. Ainsi, le candidat populaire a-t-il assorti son cadeau d'un codicille de raison ? La nouvelle prestation ne viendrait pas s'ajouter aux allocations déjà en place, mais pour une large part s'y substituerait. Nuance. Par exemple, elle pourrait prendre la place de l'allocation garde d'enfants à domicile ou de l'allocation rentrée scolaire. Simplifier donc tout ce système d'allocation, remplacer cet orage actuel par une allocation unique, pratique, lisible, démocratique, en arrondissant au passage pour le plaisir d'offrir les prestations d'aujourd'hui d'une petite trentaine de milliards de francs, soit une hausse de 15%. Pouvait-on imaginer mesures plus sociales ? Plus antisociales plutôt, car enfin, si on enlève l'emballage doré et qu'on l'observe un instant de près, derrière sa riante apparence, la proposition de Jacques Chirac cache une redoutable machine à privilégier les riches. Il faut savoir en effet que plus de la moitié des prestations familiales sont désormais versées sous plafond de ressources. En clair, elles sont réservées aux seuls ménages modestes. En théorie, les associations familiales ne cessent de le clamer. La politique familiale n'a pourtant pas vocation à assumer une redistribution entre les riches et les pauvres. Son rôle est d'encourager à faire des enfants. Et cela, toutes classes confondues. Au fil de la crise et des réformes, au fil des nouvelles prestations et de l'évolution de la société, en somme, cette allocation s'est peu à peu transformée quand même en une formidable machine à redistribuer du revenu. Une fonction éminemment sociale que beaucoup à gauche comme à droite souhaiteraient affermir et développer encore en privant par exemple totalement d'allocation les ménages à haut revenu. Or que propose Jacques Chirac? L'inverse, exactement. En remplaçant les aides ciblées par une prestation unique versée à tous sans plafond de ressources, le maire de Paris s'apprête à balayer d'un trait l'allocation, d'un trait d'allocation le caractère redistributif de notre politique familiale, au détriment des ménages modestes et pour les plus grands profits des riches. Les prestations familiales doivent bénéficier pareillement à tous les ménages, quel que soit leur niveau de revenu, murmurent de bout de lèvres les conseillers du maire de Paris en guise de justification. Cela, au moins, est dit clairement, versons aux riches, les pauvres, finalement, on s'en fout. Procès d'un violeur à Aix-en-Provence, violeur qui ne compte plus ses victimes. Sont-elles 50, sont-elles 100, on ne sait pas. Uniquement 39 viols seront apportés aux assises. Les autres bénéficient déjà de la prescription. En effet, cet homme a agi, ce petit homme de 45 ans, qui a agi pendant 18 ans sans qu'on le prenne. L'homme a régné, grimpé les murs, pénétré dans les appartements, sortait un couteau ou une arme de poing et violait la femme, puis repartait dans la nuit. Ça a duré de 1970 à 1988. Finalement, il a été arrêté. C'est un homme tranquille, un docteur Jekyll et Mr. Hyde du sexe, qui se retrouve désormais face au juré. Sa femme est là, coiffée d'une perruque avec des lunettes. Elle reste étrangement attachée à son mari, qui partait le soir en prétextant des insomnies. Il disait « aller à la pêche ». En Suisse, les femmes dans la politique, surtout les femmes romandes, sont en perte d'influence. En 1971, il y avait au Conseil national deux fois plus de romandes que d'alémaniques. 20 ans plus tard, la tendance est complètement renversée. En cette année d'élection fédérale, chaque parti a fait part de ses promesses. « Nous ferons tout », ont-ils proclamé en chœur, pour qu'il y ait davantage de femmes élues au Conseil national ou au Conseil des États, en leur réservant des places de choix sur nos listes ou en créant des listes séparées. Seuls les libéraux continuent à encourager les personnes compétentes, disent-ils, quel que soit leur sexe. En attendant, il y a 24 ans, on comptait deux fois plus de femmes parlementaires élues en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Dès 83, la tendance a commencé à s'inverser. Résultat, en 91, année des dernières élections au Conseil national, la proportion des Suisses alémaniques élues était près de deux fois supérieure à celle des romandes. Cette indiscutable inversion des tendances est commentée de la manière suivante par les auteurs d'une étude. À partir des années 80, le climat politico-culturel semble plus favorable aux femmes en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Ce sont particulièrement les partis alémaniques de tendance rouge-vert qui ont favorisé leurs candidates et ont facilité la carrière nationale de leurs représentantes. D'ailleurs, à ce propos, les sections saint-galloises et argoviennes du Parti démocrate chrétien ont décidé pour la première fois dans l'histoire du parti de proposer une liste de femmes pour pousser les femmes dans la politique. Aux États-Unis, l'une des principales pommes de discorde entre la droite républicaine et les grandes entreprises est l'attitude de celles-ci à l'égard de leurs salariés homosexuels. Une centaine de sociétés parmi les plus importantes se sont déjà engagées formellement à ne pas prendre en compte l'orientation sexuelle des personnes dans la politique d'embauche ou de licenciement ou d'avancement. Une prise de position qui pourrait paraître anodine si l'on oubliait que dans 42 États américains, il est encore légal de licencier quelqu'un en raison de son homosexualité. Quelques 25 entreprises, parmi lesquelles Apple Computer, Genentech, Levi-Strauss, Microsoft ou Time Warner, proposent par ailleurs aux partenaires de leurs salariés homosexuels la même assurance santé que celle dont bénéficient les couples mariés. Cette politique, fruit des efforts d'un lobby gay très actif, ulcère la droite religieuse. Ainsi, Bob Knight, du très conservateur Family Research Council, déclare par exemple, je cite, « Personne ne devrait être forcé d'employer des gens dont le style de vie est estimé répugnant, malsain et immoral. » La Suisse reconnaît qu'elle ne respecte pas tous les droits de l'homme. Pour le Conseil fédéral, il est indéniable que les droits fondamentaux sont très généralement respectés en Suisse et qu'il n'y a pas de violations graves ou répétées des libertés. Mais certaines critiques peuvent toutefois être formulées. Ainsi, le Conseil fédéral a donc proposé un texte de manière à ce que la Suisse adressera au Comité des droits de l'homme de l'ONU afin de voir si toutes ces pratiques sont conformes à la Déclaration des droits de l'homme. Pour l'instant, on peut déjà noter que le regroupement familial des saisonniers que la Suisse a systématiquement refusé fera sûrement l'objet de remarques. On peut aussi parler du droit des personnes arrêtées ou placées en garde à vue. Le département fédéral reconnaît que l'état actuel de la législation suisse n'est pas vraiment compatible avec le pacte. Un détenu devrait pouvoir s'entretenir immédiatement avec un avocat et un médecin de son choix, garantie jusqu'ici inconnue du droit suisse. Il y a également le problème des droits des enfants qui pose justement problème, et puis l'inégalité des époux lors du divorce risque également de valoir certaines critiques à la Suisse, de même que d'autres discrimination entre hommes et femmes, en particulier dans les assurances sociales. Et puis toujours en Suisse, un nouveau billet de 50 francs et pour une fois, il y aura une femme dessus. C'est une grande première, c'est la première fois. Il s'agit de Sophie Tauber-Arp, peintre et sculpteur. C'était la femme, entre autres, du sculpteur Arp. Et on la connaît peu, bien sûr. Comme beaucoup de femmes artistes, elle a été éclipsée par son mari. Mais en tout cas, elle apparaîtra dans les nouveaux billets de 50 francs. Et puis, grande nouvelle, les hommes et les femmes utilisent leur cerveau différemment pour lire. Et oui, une grande étude vient de montrer que les hommes utilisent des zones plus étroites pour lire, et seulement des zones de l'hémisphère gauche, alors que les femmes se servent plutôt de zones réparties dans les deux hémisphères. Vous savez sûrement que l'hémisphère gauche est plutôt réservé au raisonnement, tandis que l'hémisphère droit est plutôt réservé aux intuitions et à la compréhension globale. Et voilà, il paraît que nous sommes vraiment différents des hommes. Qui l'eût cru. Et puis j'aimerais terminer par des petites nouvelles qui m'ont bien fait rigoler, si on peut dire. Ainsi, à Copenhague, la police de Copenhague est à la recherche depuis un mois d'un maniaque dont la spécialité consiste à arrêter les femmes dans la rue avant de leur enduire le visage avec de la crotte fraîche de chien. Pas mal, hein ? Il est vraiment taré, celui-là. Et puis une autre histoire plus gaie, celle-là. À Djibouti, l'amour est plus fort que la guerre. La fille du sultan de la ville de Tadjoura a accepté d'épouser le chef de la guérilla marxiste, Ouguri Kafi Ahmed, à condition que son mouvement fasse cesser les hostilités l'opposant aux troupes gouvernementales. La célébration des noces a mis fin à 4 ans de guerre civile. Comme quoi, hein ? Et puis une belle petite histoire de vieille dame indigne. Ces deux sœurs anglaises qui ont fugué de 76 et 74 ans, qui ont fugué pendant 3 ans, menant grande vie en compagnie d'une charmante dame de 51 ans, accompagnée de sa fille. Le quatuor se déplaçait en permanence en Angleterre et en Irlande, fréquentant les meilleurs hôtels. La charmante dame insistait toujours pour payer la note. C'était en fait une spécialiste de l'escroquerie aux cartes bancaires et chéquiers volés. La sœur cadette des deux voyageuses a alerté la police qui, après 3 ans de recherche, a fini par pincer les deux vieilles dames dans un cottage isolé. L'escroc et sa fille, elle, avaient pris la poudre d'escampette. On allait à l'hôtel tous les jours, petit déjeuner, dîner compris, a raconté une des femmes. On s'amusait vraiment bien. C'était comme des très grandes vacances. Chaque minute en valait la peine et on recommencerait si la chance se présentait. La famille veut qu'on retourne à la maison, mais il n'en est pas question. Aucune charge n'a été retenue contre les deux sœurs. Et puis, j'aimerais terminer par le cochon de la semaine pour le PDC Vélezan et entre autres Simon Épinay, conseiller national, qui a qualifié les femmes parlementaires du Parti socialiste de taurières. En patois, ce sont des génisses qui ont perdu leur veau et qu'il faut maintenir hors du troupeau en raison de leur comportement déréglé et nymphomane. Il est sans doute traumatisé par les combats de Rennes. Notre pauvre torero a définitivement perdu la boule. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'en Valais, des femmes de tous les partis se sont réunies pour faire un lobby de femmes et peut-être même éventuellement un parti de femmes afin d'imposer des femmes dans tous les exécutifs et les législatifs en Valais et peut-être même au national. Voilà, c'était les nouvelles sur la pleine lune 93.8 MHz. Marjolaine est là et vous attend avec un cœur gros comme ça.
Alors, vous voyez qu'on est, on est très braves ici à Radio Pleine Lune. L'une est épuisée, l'autre ne vaut guère mieux. On tient le choc quand on est devant le micro avec nos auditrices et nos auditeurs. On n'a peur de rien et on a du courage. Alors, dans quelques instants, le mémento de Marjolaine, bien sûr. En attendant, un petit peu de musique. Alors je vous repasse le micro, nous avons encore quelques informations.
Oui, j'aimerais juste vous rappeler les rendez-vous de, autour du 8 mars. Ça commence déjà vendredi avec à 18h30 un rendez-vous à la maison au théâtre de Saint-Gervais, juste avant le spectacle El Oria. Il y a une chanteuse algérienne, Louise, qui viendra, qui parlera aussi de sa situation. On parlera aussi de ce groupe Cris de femmes en Algérie, ce groupe dont la présidente a été assassinée il y a 15 jours. Et puis, je suis sûre qu'il y aura des bonnes choses à manger. Autre rendez-vous, eh bien, c'est le 8 mars lui-même, à 17h, pleine de plein palais. Venez donc admirer la lessive, et oui, l'exposition pour une véritable assurance maternité. J'aimerais encore vous signaler que le Centre Femmes Nathalie Bernet fête, lui, le 8 mars de façon un peu spéciale, puisqu'il va inaugurer une salle de jeu. On ne dira rien de plus là-dessus. J'aimerais également vous signaler que finalement est sortie une brochure sur le harcèlement sexuel au service de santé du personnel de l'État, un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de cette histoire qui a agité Genève, l'histoire du harcèlement de 4 personnes par le médecin conseil de l'État. Voilà, une brochure fait le bilan de cette longue histoire. Et puis pour terminer, vous rappelez qu'à la fin du mois de mars, c'est le festival de films de femmes de Créteil. Ça commence le 31 mars jusqu'au 9 avril avec un programme absolument extraordinaire. Entre autres, un spécial Charlotte Rampling, des pionnières européennes d'hier et d'aujourd'hui, un hommage à l'école de l'IDEC en présence de Margot Benacerraf, etc., des anciennes, une tournée sur Alice Guy Blanchet, vous savez qu'Alice Guy est la première femme féministe au début du siècle, et puis, enfin, on en reparlera. Voilà, c'est bon, Marjolaine, les coups de cœur. À la semaine prochaine. You have been my way on a memorable day, and the month will be May for a while. I'll try to smile, but can I play the part? Without my heart beside the smile, the way I feel for you, I know I never ever could disguise. The look of love was written plainly in my eyes. I know
would be mine again if you could see me now. This morning